Les entretiens d'Accent 4.
Bonjour Yvan Rie.
Bonjour.
Vous êtes pianiste, compositeur et président du Nantes Festival Chopin. Votre planning de concert est extrêmement chargé en cette année 2017. Vous donnerez des concerts en France, en Italie, au Japon, aux États-Unis. Un enregistrement avec le quintet Moragues est à paraître d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant, nous allons parler de trois disques. Deux proviennent des archives du Festival Chopin de Nohant. Un récital de Yuri Egorov de 1982 et le dernier récital à Nohant d'Aldo Ciccolini, que vous avez bien connu, en 2014. Il devait décéder le 1er février 2015. Deux récitals qui sont des rares moments de poésie, avec Schubert pour le premier et Schumann pour le second.
Oui, ce sont effectivement des enregistrements d'archives, et c'est surtout la première publication que nous faisons de ces archives. Le festival remonte à 1966, donc 50 années pendant lesquelles tous les concerts ont été enregistrés pour les archives du festival, ce qui donne évidemment un nombre considérable d'enregistrements dont certains sont tout à fait exceptionnels, à la fois par la qualité des artistes, puisque les plus grands artistes sont venus à Nohant, d'Arthur Rubinstein à Samson François, en passant par Émile Gilles, Richter, Arau et bien d'autres. Et donc, dans toutes ces archives sonores, nous avons une vraie mine, et nous avons choisi l'année dernière donc de publier, et ça vient juste d'être publié maintenant, les premiers enregistrements d'archives. Et pour cela, on a commencé par Aldo Ciccolini, son dernier récital à Nohant, puisque Aldo Ciccolini était aussi à l'origine du festival et donc a été très lié à la fois au domaine de Georges Sand à Nohant, à ce festival, pendant toutes ces années. Et il est revenu à nombreuses reprises, la dernière fois, donc vous l'avez dit, en juin 2014 pour l'ouverture du festival. Et il avait donné à 89 ans un récital absolument extraordinaire, de qualité musicale et bien sûr technique comme il l'a été toute sa vie, mais il y avait une sorte de sérénité dans son jeu qu'on entend très bien, je pense, dans l'enregistrement, et qui vraiment pour nous méritait d'ouvrir cette série. Et puis Egorov disparu trop tôt et dont finalement on a assez peu d'enregistrements, et qui est là aussi dans un programme qui montre toute l'étendue de son talent. Et ce qui était important pour nous aussi dans ces coffrets d'archives, c'était d'y associer chaque fois un grand disparu, on va dire, et de jeunes talents. C'est ce que nous avons fait. Et donc, en fait, chaque coffret comporte deux CD, un CD d'un grand disparu et un CD avec des extraits de concerts de jeunes solistes tout à fait remarquables, qu'ils soient pianistes ou autres, violoncellistes. Et donc, dans ces deux premiers coffrets, nous avons déjà toute une série de jeunes qui trouvent là le moyen de se faire connaître, parce que bien souvent, au moment où ils ont joué à Nohant, ils n'avaient pas encore d'enregistrement discographique de publier.
Je l'ai dit, vous avez bien connu Aldo Ciccolini, vous avez même suivi des classes de maître. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous sur le plan de votre approche du piano et des œuvres ?
Alors, Aldo Ciccolini, c'était à la fois un artiste exceptionnel, mais c'était surtout un homme d'une très grande humanité, d'une très grande générosité. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, après avoir eu mon prix au Conservatoire de Paris dans la classe de Pierre Sancan, j'ai commencé à travailler avec lui, avec Aldo Ciccolini, parce que j'étais venu jouer justement dans une petite série de concerts autour de Nohant, et que le directeur artistique de Nohant à l'époque, il s'appelait Jean Darnel, c'est un grand directeur artistique et qui a fait vraiment les riches heures, on peut dire, des débuts du festival pendant 20 ans, eh bien, avait enregistré aussi tous ses concerts de jeunes, et il avait fait écouter mon concert à Aldo Ciccolini. Et Aldo Ciccolini avait dit, mais je pense que si je vais le faire travailler, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un jeune de 17 ans, de voir qu'on le sollicite. Et quand j'ai travaillé avec lui, donc pendant 3 ans, ce qui était le plus frappant chez lui, c'était son grand respect de l'œuvre en général, du compositeur. Il considérait que l'interprète devait s'effacer derrière l'œuvre, derrière le compositeur, et non pas se servir de ses œuvres. Alors, c'était une première caractéristique. Et l'autre, c'était un respect du texte absolument extraordinaire, et surtout une recherche de la compréhension du texte. Il était lui-même, il avait été formé en Italie un peu à l'ancienne, je dirais, c'est-à-dire en ayant étudié toutes les notions d'écriture, de composition, de direction d'orchestre. C'est un artiste complet. Moi-même, j'ai eu la chance de faire aussi toutes ces classes au conservatoire et de pouvoir retrouver, grâce à tout cela, dans une œuvre que l'on interprète, eh bien, une compréhension de la façon dont c'est écrit et qui permet ensuite de jouer avec, je pense, une clarté qui fait passer le message du compositeur. C'était cela aussi Goccioni, cette grande humilité à la fois et souvent respect du texte.
Dans cette série d'archives, d'autres pépites vont apparaître dans les bacs des disquaires.
Oui, nous allons poursuivre, bien sûr. Nous souhaitons en éditer au moins un coffret par an, peut-être deux si on le peut, parce que c'est aussi un grand travail. Et puis, vous savez, il faut rechercher aussi les ayants droit des interprètes disparus. C'est quelquefois un peu compliqué, les négociations avec les maisons de disques ou avec les ayants droit. Donc, nous y travaillons. Et la seule chose que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts absolument extraordinaires dans nos réserves. Et simplement, nous espérons pouvoir, au moins d'ici la fin de l'année, proposer à nouveau un coffret et sans doute deux.
En tout cas, Accent 4 suivra avec beaucoup d'intérêt la publication de ces archives. Le troisième disque est celui que vous avez intitulé Orchestral Piano Works 1879-1920. Il s'agit de transcriptions de pages orchestrales connues de tous. Vous en avez réalisé trois, les danses polovziennes du Prince Igor de Borodine, l'apprenti sorcier de Paul Dukas et la valse de Maurice Ravel. Et vous avez complété ce disque avec le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, la pavane pour une infante défunte de Ravel et les trois mouvements de Petrouchka de Stravinsky. Dans un texte de la plaquette de ce disque, vous expliquez que la transcription est une activité qui remonte à vos années d'études au Conservatoire de Paris.
Oui, tout à fait, parce que j'étais dans les nombreuses classes que j'ai faites au Conservatoire, et j'ai fait aussi la classe d'accompagnement, et dans cette classe qui était dirigée par Jean Körner, qui était un grand pianiste peu connu du public parce qu'il ne jouait pas beaucoup, mais c'était un pianiste extraordinaire, et il avait justement un sens du piano orchestral, et dans cette classe, il nous faisait déchiffrer des partitions d'orchestre, d'opéra, bien sûr, ou de symphonie, etc., et essayer de retrouver la sonorité de l'orchestre, de donner l'illusion de l'orchestre. Donc ça, c'est ce qui a un peu déclenché chez moi cette envie de passer un peu à l'acte en transcrivant moi-même des œuvres. Et c'est à cette époque-là que j'ai fait les deux des trois transcriptions, donc c'était dans les années, au début des années 80, ça remonte à plus de 30 ans maintenant, qui étaient donc les danses pour le scène du Prince Igor et l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Et je me suis passionné pour cela vraiment à un point, vraiment je suis allé au bout de la démarche, je dirais, et ce sont des œuvres que j'ai jouées en concert et puis que j'ai arrêté de jouer parce que c'était horriblement difficile. Et c'est vrai que c'était un challenge à chaque fois que de les rejouer. Et puis, ce qui est très curieux, c'est qu'au bout d'une dizaine d'années, où je ne jouais plus ces œuvres, je les ai retrouvées en rangeant ma bibliothèque, je les ai ressorties, et j'ai trouvé que finalement, elles n'étaient pas si difficiles que ça. Je les ai remises sur mon piano, je les ai retravaillées, rejouées, puis un peu plus tard, je me suis dit, mais je vais aussi faire la valse de Ravel, puisque la valse de Ravel a une histoire un peu particulière, en ce sens que la partition pour piano demain de Maurice Ravel lui-même est en fait une version initiale qu'il a ensuite orchestrée. Et donc, quand il a fini d'orchestrer, il n'est pas revenu à la version pour un piano parce qu'il considérait que ce qu'il avait mis à l'orchestre était évidemment trop difficile à remettre sur un seul piano et il a préféré le faire à deux pianos. Et donc, il n'y a pas de vraie version de Ravel pour un piano qui corresponde à la version d'orchestre. Et je suis reparti donc de la version d'orchestre, que ce soit la partition ou l'enregistrement, pour créer une vraie partition pour piano seul de cette œuvre qui soit cohérente et qui soit de bout en bout fidèle à la partition d'orchestre. Et ça a pris énormément de temps parce que c'est très compliqué. Et là aussi, je l'ai joué, puis abandonné, puis repris 10 ans plus tard. Enfin bref, donc cet enregistrement, il est le fruit à la fois d'un travail et surtout d'un parcours sur une trentaine d'années qui m'a passionné et que je suis assez content aujourd'hui d'avoir pu fixer au disque. Et voyez, la semaine dernière, j'étais à la Cité de la Musique où il y avait une journée consacrée à la Symphonie Fantastique de Berlioz et je suis intervenu dans cette journée-là pour une communication sur la version orchestrale transcrite par Franz Liszt, qui est finalement la toute première œuvre qui était vraiment transcrite pour piano seul, dans l'esprit qui est celui dans lequel je l'ai fait aussi moi-même. C'est en quelque sorte la source. Quand Franz Liszt a transcrit la symphonie fantastique de Berlioz, il a fait table rase de ce qui se faisait avant, où on faisait plutôt des arrangements ou des réductions, et il a cherché à retrouver les masses orchestrales, les effets sonores, voilà, tout en utilisant le piano. Et c'est de là que vient finalement cette grande tradition de transcription des œuvres orchestrales, pour faire que au piano, ça ne soit pas une réduction, mais que ça soit une véritable relecture qui garde un peu les mêmes caractéristiques qu'à l'orchestre, et qui, en revanche, offre une certaine un petit plus, je dirais, qui est celui que l'interprète et le chef d'orchestre, finalement, ne font qu'un, puisque c'est celui qui joue et ses 10 doigts remplacent l'orchestre. Donc, il y a une osmose assez intéressante, je trouve, dans le fait de jouer soi-même une œuvre orchestrale qu'on a transcrite au piano.
D'ailleurs, vous allez jusqu'à imiter les infimes décalages inévitables lors d'une exécution reconcertante.
Oui, c'est d'ailleurs Jean Körner qui m'avait montré cela, entre autres choses, notamment que les pitchs d'un orchestre ne sont jamais totalement ensemble, comme ils peuvent l'être si vous jouez des notes ensemble sur un piano. Elles vont être parfaitement ensemble. Dans un orchestre, elles seront ensemble, mais avec quelquefois un infime décalage qui n'est presque pas mesurable, mais qui crée quand même une résonance bien particulière. Et c'est effectivement ce que j'utilise, entre autres moyens, notamment dans le début de la partie rapide de l'apprenti sorcier, qui démarre par ces notes assez espacées les unes les autres et qui sont jamais totalement ensemble à l'orchestre. Alors qu'au piano, on pourrait les jouer ensemble, mais du coup, ça ne sonnerait pas comme un orchestre.
Est-ce que votre activité de compositeur vous a aidé dans cet art de la transcription ?
Oui, en fait, si vous voulez, la musique est un tout. Si on se spécialise trop en étant, par exemple, comme beaucoup de jeunes, on sont un peu tentés de le faire, voilà, aujourd'hui, on leur dit il faut travailler votre piano 10 heures par jour si vous voulez arriver à être un pianiste formidable. Bon, c'est un peu une erreur, parce qu'en définitive, il faut être à la fois capable de composer une œuvre, c'est-à-dire d'avoir compris comment on compose pour pouvoir l'interpréter. Il faut être, bien sûr, tout à fait en possession des moyens pianistiques ou instrumentaux pour bien jouer, mais il y a tous les autres aspects, savoir composer, savoir éventuellement diriger, savoir enseigner, tout ça, ce sont des façons différentes de regarder, avec un angle différent, mais de regarder la même chose et de la rendre. Alors bien sûr, quand on joue, quand on compose, quand on est capable d'orchestrer soi-même d'ailleurs une œuvre pianistique pour la mettre à orchestre, on est capable de faire l'inverse, et tout cela prend du sens et facilite grandement les choses.
Et les trois autres pièces que vous avez choisies forment en définitive un tout avec les trois transcriptions, puisqu'on est proche de la danse.
Oui, il y a un thème qui parcourt un peu toutes ces œuvres, c'est celui de la danse, bien que l'apprenti sorcier ne soit pas véritablement un ballet, mais ça aurait pu en être un. En tout cas, quand on voit Fantasia, ça ressemble un peu à ça aussi.
Absolument.
Et puis, voilà, et aussi la pavane pour une infante défunte, mais pas une œuvre orchestrale transcrite pour le piano, puisqu'en définitive, c'est une œuvre pianistique au départ, qui a été orchestrée par Ravel ensuite. Mais j'ai tenu quand même à ce qu'il y ait toutes ces œuvres, y compris les trois mouvements de Petrouchka, qui sont une autre vision d'une œuvre orchestrale, puisque là, c'est le compositeur lui-même, c'est Stravinsky qui l'a adapté au piano. Et enfin, le prélude à l'après-midi d'un faune, que j'aime beaucoup, qui est une version qui a été donc réalisée par Leonard Borwick, qui était un élève de Clara Schumann, qui a réalisé quelque chose, je trouve, d'assez réussi, parce que ce sont une œuvre qui est assez étalée et tirée, et il faut que les lignes sonnent bien, et c'est tout à fait le cas dans cette version, et j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est effectivement la danse, c'est aussi toute une époque extrêmement riche musicalement, voilà, entre la fin du 19e et le début du 20e, il y a un foisonnement, et je trouve que l'association de ces différentes œuvres entre la musique russe, la musique française, la couleur, la danse, l'orchestration, le piano, tout ça forme un tout qui, je pense, s'écoute avec une certaine logique en même temps.
Je suis bien d'accord avec vous et je vous remercie, Yvan Rie. Je rappelle donc la publication par Soupir Édition de votre disque orchestral Piano Works.
Merci.